Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme d'Urbanité de décembre, un éditorial sur l'eau dans la ville, la belle rencontre avec Christian Ruby sur le sujet qui et sur son livre qui vient de paraître sur les statues dans la ville, et puis le sujet qui fâche, qui exceptionnellement n'est pas un sujet qui fâche, mais un sujet qui réconcilie, un sujet qui nous réunit, une réflexion sur la limite et le seuil au Japon par Philippe Bonin, architecte et anthropologue.
Urbanité. L'édito.
C'est souvent quand on manque d'eau que celle-ci se rappelle à nous, comme lors des étés caniculaires. Sinon, le simple fait d'ouvrir le robinet de l'évier ou de prendre une douche ne nous émeut guère. Tout cela semble normal. L'eau domestique dessert tous les logements et équipements publics, ateliers, fermes et usines. Quant aux lacs, rivières, fleuves et mers, ils appartiennent à nos stéréotypes de vacances ou de promeneurs, comme le coucher de soleil embrasant de ciel. Parfois, une information diffusée par la radio ou entreaperçue sur l'écran vient chahuter cette image rassurante d'un bien en abondance. La mort d'un glacier, la fonte de la banquise, la sécheresse qui entraîne la disette, ou aussi d'immenses incendies. Le manque d'eau concerne 3,6 milliards de terriens, au moins un mois par an. Sans oublier les 2 milliards d'humains qui boivent de l'eau contaminée par des excréments et des produits toxiques, dont des médicaments que nous jetons sans difficulté dans les toilettes. Pendant ce temps, la consommation d'eau embouteillée est passée d'un milliard de litres d'eau en 1970 à 465 milliards de litres d'eau en 2020, alors même que l'eau du robinet est tout à fait potable, au moins dans les pays qui la traitent. À cette absurdité s'ajoute le fait que 90% des bouteilles de plastique ne sont pas recyclées et qu'une bouteille met 400 ans à se décomposer. En 2030, le poids des plastiques qui polluent les mers et les océans pèsera plus que celui de l'ensemble des poissons. C'est bel et bien un sixième continent, comme on l'a annoncé. Il ne faudra pas oublier non plus que les activités industrielles, minières et agricoles du système productiviste surconsomment l'eau qu'on appelle eau virtuelle. Ainsi, la production d'un kilo de blé exige 1160 litres d'eau, un kilo de riz 1400. Un kilo de porc, 4600, un kilo de bœuf, 13500. Il en va de même pour la fabrication d'un jean, d'une automobile, d'un avion. Tous ces processus réclament de l'eau pour fonctionner. Qui en a vraiment conscience? Il se dit qu'il ne doit pas dilapider l'eau en changeant de téléphone portable alors que l'ancien fonctionne encore. Un peu partout dans le monde, des collectifs de citoyens se mobilisent pour défendre le caractère inaliénable de l'eau. Songeons à Eau Secours, très beau jeu de mots, évidemment, a eu plus loin secours, qui a permis à la ville de Montréal de ne pas privatiser le service de l'eau et sa distribution. Et puis, bien sûr, au propos de Maude Barlow, prix Nobel alternatif en 2005, qui, dans Blue Future, publié en 2013, énonce quatre principes indispensables à la protection de l'eau. Premièrement, l'eau est un droit humain et une question de justice, non de charité. Deuxièmement, l'eau est un bien commun, ce qui signifie que son accès ne doit pas être déterminé par des intérêts privés à but lucratif. Troisièmement, l'eau a des droits qui s'étendent au-delà des services qu'elle rend aux humains et elle doit être respectée et protégée pour l'écosystème et les êtres vivants qu'elle abrite. Quatrièmement, plutôt que d'être une source de conflits de division, l'eau peut être un cadeau de la nature qui nous enseigne comment vivre plus doucement sur la planète, en harmonie les uns avec les autres. Maude Barlow œuvre pour la création de communautés bleues. De quoi s'agit-il? Une communauté bleue adopte trois principes fondamentaux. Premièrement, elle s'engage à protéger et à promouvoir l'eau et les services d'assainissement en tant que droit de la personne. Elle s'engage à protéger l'eau comme un bien commun en faisant la promotion des services d'eau potable et d'eau usée, financée, détenue, exploitée par le secteur public. Et troisièmement, elle considère qu'il faut éliminer progressivement la vente d'eau embouteillée. Il y a environ 25 millions de personnes qui défendent l'eau, dont 50 municipalités devenues officiellement des communautés bleues. On voit que c'est quand même très très peu, 25 millions par rapport à nos 7,5 milliards de terriens. Depuis quelques années, des activistes qui veillent à retarder l'écocide proposent d'accorder aux rivières, mais aussi à des forêts, la personnalité juridique. La rivière Vilcabamba, en Équateur, depuis 2011, est intouchable. selon la Constitution. Le fleuve Atrato, en Colombie, est également protégé depuis 2011, et le fleuve Whanganui, en Nouvelle-Zélande, en 2007. Au Bangladesh, la Cour suprême a exigé en 2019 que la Commission nationale de protection des rivières reconnaisse à la rivière Turag et aux 450 cours d'eau du pays le statut de sujet de droit. En France, le Parlement de la Loire s'efforce de faire reconnaître les droits du fleuve, de même que le futur Parlement du Rhône tentera de redonner au fleuve sa superbe. Chaque année, le Rhône charrie 8,5 tonnes de plastique qui rejoignent la Méditerranée. Le débit moyen du fleuve est inférieur en 2017 de 30% par rapport à celui des 20 dernières années. Quant au glacier du Rhône, il aura disparu vraisemblablement en 2100. Né d'une conférence, H2O, les eaux de l'oubli, d'Ivan Illich, se révèle être une profonde méditation sur l'eau, dans la ville et donc sur la ville et sa capacité à accueillir chaque habitant avec ses rêves, ses craintes, ses hésitations, sa vie. Toutes les villes, par un effet de mode, s'en viennent à reconquérir, c'est le terme qu'ils utilisent, les berges du fleuve qui les traversent, à édifier un front de mer face au rivage, à urbaniser la zone portuaire et les docks avec des galeries d'art, des bistrots branchés, des restaurants chics, à établir une continuité entre la ville, son vieux centre et les entrepôts et autres établissements techniques, débarrasser des activités industrielles et portuaires pour devenir un quartier de chalandise animé surtout la nuit. Les villes entretiennent avec l'eau une relation économique qui privilégie le tourisme et la distraction. C'est pour cela que les nouveaux équipements se ressemblent tous et que les ambiances ont l'air semblables. À présent, ce sont les mégalopoles qui y ont bétonné à tout va, ont détruit les mangroves ici et les réseaux des canaux protecteurs là et se trouvent vulnérables face à la montée des eaux. On évoque Mumbai et Bangkok, mégacités menacées à terme, mais New York, Shanghai, Jakarta, Hanoï, Hong Kong, Rio et bien d'autres aussi sont sur la liste. L'eau est également un bien qui n'est pas extensible. Or, la consommation ne cesse de croître avec l'agriculture intensive, les besoins de l'industrie et ceux d'une population qui va atteindre les 10 milliards dans deux décennies, ce qui se traduira nécessairement par des conflits, des guerres de l'eau qui compléteront les futurs conflits liés au pétrole, aux terres arables et à d'autres ressources indispensables à la survie de chacun et à la puissance des États et des firmes transnationales. La rosée matinale qui nous enchante, la goutte d'eau qui perle sur les pétales des fleurs, exprime-t-elle encore ses inquiétudes écologique. Empédocle, qui est un des premiers à avoir réfléchi sur les quatre éléments, qu'il appelait à dire vrai en grec les quatre racines, Bachelard, qui est l'auteur d'un livre superbe, L'eau et les rêves, essai sur l'imagination de la matière, publié chez José Corti en 1942, et Ivan Illich, dont je viens de parler, qui publie H2O, ou Les eaux de l'oubli, s'accordent tous les trois sur la dimension élémentale de l'eau. Sa force symbolique et mythologique, son importance pour maintenir la vie en vie. Plus encore, elle métaphorise, incite au rêve, à la poésie. Oui, les humains, tout comme le vivant, peuvent vivre vraiment d'amour et d'eau fraîche. Ils ne doivent pas l'oublier.
Urbanité, la belle rencontre.
Christian Ruby, je précise pour les auditeurs, tu es philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur l'esthétique, le public, une notion passionnante, l'art urbain, la philosophie politique, et tu viens de publier « Circumnavigation en art public à l'ère démocratique » avec une postface du sculpteur Alain Levato. C'est paru aux éditions Naufragés volontaires à Grigny cette année. Le livre fait 135 pages, vaut 10 euros. Ce sont des confidences recueillies par un narrateur passionné. Ainsi, le lecteur te lit en lisant tes propos racontés par un autre, ce qui donne au livre un ton très original et particulièrement bienveillant. Tu racontes à ce narrateur ton enfance, ta découverte de l'art, aussi bien dans les musées que dans les rues et les places, et tu évoques une première déstabilisation esthétique avec Louise Bourgeois ou Joseph Beuys. Une seconde avec la chute de la statue d'Alexandre III dans le film Octobre d'Eisenstein en 1927, et une troisième à la vue de socles vides de leur statue. Lesquels, par exemple, Christian ?
Ah, écoute, à Paris, par exemple, on compte à peu près 400 statues qui ont disparu et donc un certain nombre de socles vides, parmi lesquels le plus connu est le socle sur lequel a été déposée la statue de Arago, l'homme du 19e siècle, qui a été fondu sur ordre des Allemands et de Vichy et qui, par conséquent, est resté vide jusqu'à ce que parfois quelqu'un l'occupe. Un artiste écologique, écologiste, il y a quelques années, avait posé quelque chose, etc. Enfin, en tout cas, ce sont des socles vides qu'on trouve à peu près partout. À Tours, par exemple, il y a un socle vide qui est celui qui était occupé par un Balzac, qui, au moment de la guerre aussi, a été fondu.
Alors, Fernand Bournon, dans La voie publique et son décor, un ouvrage de 1909, rappelle que seuls les rois avaient leur statue à Paris et quand le Second Empire prit fin, on en comptait 9 statues, alors qu'il en dénombre, 30 ans plus tard, plus de 110. On a affaire alors à une véritable statuomanie, c'est le titre d'un poème d'Auguste Barbier en 1846, qui est assez péjoratif. Mais cette notion de statuomanie est reprise par Maurice Agulon, qui l'utilise positivement pour qualifier la prolifération des statues durant la Troisième République. Pourquoi, à ton avis, cet engouement, certainement à vocation politique? Qui honore qui et où?
Alors, si on se limite à la statuaire ou à la statuomanie, comme tu l'as dit, donc grosso modo à l'espace politique de la Troisième République, l'objectif, la visée est une visée vraiment de moralisation du peuple par des figures du bien et par un certain nombre de valeurs placées en position autoritaire dans un certain nombre de lieux urbains, devant les mairies, sur des places publiques, sur des places sur lesquelles, entre guillemets, le peuple pourrait être rassemblé, c'est aussi faire signe vers le vote. Mais ça, c'est l'espace de la Troisième République et c'est l'espace auquel, grosso modo, les artistes comme les politiques après 1982 vont renoncer.
Et pourquoi?
Alors, pourquoi? Parce que cette statuomanie est devenue une sorte de lieu commun des espaces, et puis surtout, c'est le moment d'une concentration sur des espaces particuliers qui n'englobaient pas à l'époque la possibilité de travailler, de faire travailler des artistes dans les banlieues, de faire travailler les artistes dans des institutions, etc. Et donc, en 1982, le remaniement de la commande publique a élargi quasi extrêmement la notion d'art public en permettant, par exemple, le développement de l'art urbain, de l'art dans la ville, d'un art ludique et un certain nombre d'éléments qui, au passage, permettent, parce que ton générique est quand même extrêmement intéressant, qui permettent ces sortes de gymnopédies, disons, découvertes, parcours et autres déambulations dans la ville à une toute autre fin qui n'est plus celle d'imposer une visée unique et uniforme de la République, mais d'assouplir justement les capacités de la République à s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres problématiques, d'autres travaux et notamment des travaux d'artistes.
Alors, dans la revue Observatoire des politiques culturelles en 2004, tu publies un article au titre magnifique que je voudrais bien que tu explicites. Ce qui est public dans l'art public.
Alors, c'est effectivement une des questions que je me suis posée au terme de toutes ces déambulations dont tu as parlé et qui ont fait que j'ai fini par essayer de me concentrer sur les questions principales de l'art public. Questions qui sont très diverses, qui vont de pourquoi de l'art public, pourquoi concentrer l'art public pendant toute une période sur la statuaire ou pourquoi l'avoir élargi, quelle est l'efficacité que l'on attend de l'art public par rapport justement au public, voilà, et j'ai prononcé les deux mots, mais ces deux termes n'ont pas le même sens. L'art public, en principe, définit essentiellement les œuvres d'art qui sont rémunérées sur des fonds publics, tandis que l'adresse au public, cette fois, c'est l'adresse selon les cas, soit aux passants, soit au peuple, avec des guillemets évidemment, puisque c'est le centre du travail de la Troisième République, mais ce n'est pas exactement le même cadrage que celui de la commande publique après 1982. Donc, on se retrouve là devant un certain nombre de questions, de difficultés qui vont jusqu'à la nécessité de distinguer les lieux publics et les espaces publics, la nécessité aussi de savoir si un artiste travaille plutôt sur des lieux publics ou travaille plutôt sur l'espace public, qu'est-ce qu'il peut proposer. Et puis, dernière question pour abréger, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore raconter des histoires en public, raconter les mêmes histoires, ou est-ce que justement, il n'est pas nécessaire de chercher à construire d'autres choses, d'autres voies ? Pour en rajouter un élément, je crois effectivement, puisque j'enseigne dans une école d'art, que les artistes ou les futurs artistes, ceux que nous formons, commencent à travailler ou continuent à travailler très très différemment sur cette question de l'art en public ou de l'art public.
Alors, tu consacres un chapitre qui est très très agréable à lire, très bien écrit, qui est une forme de discussion entre un accusateur public, un principal accusé, un expert historien et même une statue déboulonnée. Ce chapitre est consacré justement au déboulonnage de colonisateurs et d'esclavagistes qui peuplaient vraiment nos rues. Quand démarre ce mouvement, qui vise-t-il et que faut-il en penser ?
Alors, deux remarques, puis après je développerai un tout petit peu. La première remarque, c'est que ce chapitre a été construit à partir de phrases réelles. Alors, autant je l'ai construit sous la forme d'une fiction, mais ce sont des phrases que j'ai trouvées dans les discours, dans les journaux, dans les médias, etc., et que j'ai raboutées un peu différemment pour essayer de construire quelque chose. Et la deuxième remarque, c'est que, bon, pour moi, je prends d'abord ce mouvement sur les dernières années. Alors, ce qui ne m'empêche pas de faire remarquer qu'à propos de destruction d'œuvres d'art publiques, il faut vraiment se débarrasser de tous les écrits divers contre tous ceux qui cherchent à déboulonner une œuvre quelle qu'elle soit, dans la mesure où c'est quand même c'est un geste, une volonté, des discours qui remontent à très très loin. D'ailleurs, la plupart, en tout cas en France, parce que je n'ai pas étudié la chose pour l'Angleterre ou pour les États-Unis, mais en France, toutes les œuvres dont un certain nombre de personnes ont proposé le déboulonnage, sont des œuvres qui font discussion depuis leur mise en place. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ensuite, je relève tout bêtement que des grands auteurs comme Baudelaire, tu l'as cité tout à l'heure, Victor Hugo, Jules Vallès, pour avancer dans le temps et aller vite, jusqu'à Guy Rothier aujourd'hui, par exemple, enfin bon, il est mort il y a quelques années, mais l'architecte Guy Rothier ne cesse de dire, Dada, le surréaliste, ne cesse de dire qu'il faut déboulonner des statues. Donc, ça c'est une première chose. L'aspect qui m'a vraiment frappé dans ce mouvement, c'est que finalement, toutes les personnes qui demandaient à ce qu'on déboulonne telle ou telle statue montraient qu'elles tenaient absolument à l'art public, c'est-à-dire qu'elles demandaient qu'on substitue, après avoir déboulonné une statue, qu'on substitue à cette statue déboulonné une autre œuvre ou un autre travail artistique. Autrement dit, il y a bien une sorte d'attention, de perception positive de l'art public dans les lieux publics et dans l'espace public. Derrière tout ça, il y a quand même un certain nombre d'ambiguïtés. Que les propositions de déboulonnage soient des propositions qui sont audibles, qui doivent être discutées, qui doivent être analysées, il reste que ce mouvement s'est fondé sur une difficulté qui tient en fait à la théologie, à savoir la confusion entre le personnage raciste et une œuvre d'art qui, elle, n'est pas raciste. Alors que, curieusement, il existe dans nos lieux publics des statuaires, des œuvres racistes. Et il aurait été assez intéressant de s'attaquer à ces œuvres-là plutôt qu'à cette espèce de rebond d'incarnation qui a été le geste le plus fréquent dans les mouvements dont on parle. Alors, cette combinaison quand même pose un certain nombre de problèmes et tout cela nous conduit quand même à nous demander, c'était le débat à l'époque, mais que faire des statues ? Est-ce qu'on les maintient à tout prix ? Est-ce qu'on les déboulonne et on les met dans un musée ? Je rappelle qu'il y a d'autres solutions, d'autres propositions, des propositions d'artistes. On en relève en Allemagne, par exemple, à Hambourg, une œuvre d'art nazi, en l'occurrence, qui a été conservée et autour de laquelle Vodichko et un certain nombre d'autres artistes ont fait un travail d'analyse, de compréhension, de mise en scène d'autres œuvres pour contredire ce monument, tout en maintenant le monument. Et ça me paraît être une démarche extrêmement intéressante parce que éducative, parce que historique, parce que cohérente. Je pense aussi à une statue à Alger, statue déposée par le colonisateur et qui a été ensarcophagée et s'est trouvée l'œuvre justement par ce sarcophage d'un autre artiste. Et d'ailleurs récemment, il y a un an je crois, une autre artiste, cette fois une femme en l'occurrence, puisqu'il y en a quand même malheureusement peu, en tout cas pendant toute une période, même pas du tout dans le cadre des œuvres d'art public, une femme a fait un nouveau travail sur cette œuvre qui devient une œuvre à trois en trois moments, la statue du colonisateur, son enfermement dans un coffre et puis un travail autour d'elle. Donc on a beaucoup de solutions et ça devient extrêmement intéressant parce que finalement ce qui est en jeu, c'est aussi la conception que nous avons de la démocratie, de l'ère démocratique, de l'efficacité de l'art en public et puis de l'ouverture enfin des lieux publics et de l'espace public à des divergences, des dissensions, des oppositions, voire aussi d'ailleurs des conflits culturels qui sont évidemment importants dans la France contemporaine.
Oui, c'est vrai qu'en t'écoutant, je pense à ces déboulonnages qui ont eu lieu aux États-Unis, évidemment, l'été dernier, à la suite de l'assassinat d'un Afro-Américain. Et je me souviens que c'était très étonnant de voir que Christophe Colomb, sa statue avait été déboulonnée comme étant esclavagiste et raciste. C'était effectivement outré, puisque en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Il n'a peut-être pas eu une très bonne attitude, mais on ne la connaît pas, vis-à-vis des indigènes, entre guillemets, qu'il avait découverts dans les Caraïbes. Mais d'en faire un négrier, c'était évidemment absurde.
C'est vrai aussi de Toussaint Louverture. C'est vrai aussi d'un certain nombre d'autres. Vraiment, l'important, ce serait d'expliquer, ce serait de débattre autour de chacune des œuvres, de dissocier l'œuvre et le personnage, parce que et de s'attaquer vraiment à des œuvres racistes, car elles existent.
Oui, absolument. Du reste, le chapitre se conclut par cette phrase : la légitimité esthétique ne revient pas à une loi. Et tu as évidemment absolument raison. Bon, le temps passe malheureusement, et donc je vais aller au pas de course te poser deux, trois dernières questions. D'abord, peut-on imaginer des villes sans statues ?
Alors, disons que personnellement, non. Maintenant, alors, statue ou œuvre d'art public. En tout cas, œuvre d'art public, non. Statue, pourquoi pas ? On a beaucoup d'artistes. Les artistes nous font des propositions différentes entre la représentation, la présentation, le ludique. Il y a un certain nombre d'autres formats artistiques. Je crois qu'on a une palette assez large et l'important, ce serait peut-être justement, et c'est toujours, de faire travailler le plus grand nombre possible à la construction de la ville, non pas à faire la ville au sens où les architectes et les urbanistes s'en occupent, non pas à faire de la ville simplement avec des techniciens, mais faire ville ensemble. Donc mettre autour de la table, autour des choix, autour des décisions, autour des propositions, le plus de monde possible. Donc la réponse pour moi, en termes d'art public, ce serait non, je ne conçois pas de ville sans un certain nombre de témoignages artistiques.
Oui, c'est une position que développait Gustave Kahn, comme tu le sais, le célèbre verlibriste qui, dans l'esthétique de la rue, publié en 1900, disait que les fresques murales, les affiches aussi, des grands affichistes comme Mouchat, comme Toulouse-Lautrec, etc., et les statues étaient un véritable musée hors les murs. Alors ça, je crois que c'était une bonne idée qu'il faudrait reprendre. Dans ta conclusion générale, tu écris « L'art public use de l'espace public contre l'espace public ». Alors pour finir, est-ce que tu peux commenter cette phrase ?
Je commente très brièvement le jeu, évidemment, c'est une formule qui essaye de faire une pirouette, de construire une pirouette pour terminer le livre, mais en réalité, c'est bien ce dont nous avons discuté. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes, de citoyennes, de citoyens, d'habitantes et d'habitants sont prêts à retravailler toutes les questions urbaines, à retravailler dans la ville pour essayer de faire ville et par conséquent, il faut repenser l'espace public contre ce qui nous est donné et dont il faut comprendre qu'on peut le remanier. On n'a aucune raison de sacraliser ce qui se trouve autour de nous.
Écoute, Christian, merci beaucoup et à très bientôt.
C'est moi qui te remercie. Je fais juste une correction. L'éditeur, c'est les naufragés éphémères.
Ah oui, j'ai dit volontaire, c'est terrible ça.
C'est pas grave, c'est pas tout à fait la même chose. C'est naufragé éphémère, effectivement. Et si on veut les joindre, c'est naufragé.éphémère, tout ça sans accent, @orange.fr.
Bon, toutes mes excuses.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Philippe, tu as beaucoup écrit sur le Japon, co-dirigé le remarquable vocabulaire de la spatialité japonaise, publié en 2014, et tu viens de traduire avec Nishida Masatsugu et Marie-Elisabeth Fourou La beauté du seuil, esthétique japonaise de la limite, au CDRS Éditions. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de t'accompagner dans ta lecture et de ton commentaire de ce livre, peux-tu raconter tout simplement comment t'es venu cet intérêt pour le Japon ? Parce que c'est plutôt vers les années 90, non ?
J'espère que ce ne sera pas un sujet qui fâchera.
Non. Du reste, comme je l'ai expliqué avant les taux, exceptionnellement, c'est un sujet qui nous rassemble et qui pacifie.
Ben c'est à la fois complexe, c'est-à-dire que à l'époque où je faisais mes études d'architecture, dans les années 70, à Toulouse, où je les ai commencées, on ne connaissait à peu près rien du Japon en architecture, il n'y avait pas un seul ouvrage. Mais à ce moment-là est sorti l'ouvrage de Masuda, qui était professeur, qui était francophile et francophone, et qui enseignait à l'université de Kyoto, et qui a fait ce remarquable ouvrage avec ses étudiants, ses assistants, que maintenant on a bien connu et qu'on a fréquenté, et qui nous a ouvert, en particulier à travers la photographie, les photos magnifiques de cette architecture, sur un univers qu'on ne connaissait absolument pas. C'était cette collection de l'Office du Livre à Fribourg, qui est la collection de l'architecture universelle. Bon, alors on a vu ça, on a admiré. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je mettrais les pieds dans ce pays-là. Ça a été
très... Et que tu parlerais la langue.
J'essaierai de la parler directement et de l'étudier et de faire quelque chose avec. Et il a fallu effectivement très longtemps, c'est un peu le hasard, un heureux hasard qui, à l'époque où je travaillais chez Chambard de l'eau, donc à Montrouge, est arrivé un professeur japonais qui admirait beaucoup le travail de Chambard et qui venait lui présenter à la fois ses hommages et son boulot, ses enquêtes sur le Japon, sur l'habitat populaire japonais. Et en particulier sur l'habitat du Hokkaido, de l'île du nord du Japon, île avec un climat assez rude, assez froid et neigeux. Et Chambard, voyant ce travail-là, lui dit « Mais vous savez que j'ai quelqu'un chez moi qui fait pratiquement la même chose. » Et je venais de terminer une recherche collective avec Martine Perrault et Martin Lassoudière sur le massif central, sur la Margeride, qui est effectivement aussi un pays froid et neigeux, et sur l'habitation populaire et sa transformation. Et du coup, j'ai fait connaissance de ce professeur, Adachi Fujio, sur lequel je prépare un futur livre. Et nous avons échangé, nous sommes rendus compte, nous avions effectivement beaucoup de choses à nous dire. Et je l'ai emmené, évidemment, sur mon terrain, dans des fermes reculées du Massif central, où il n'aurait jamais mis les pieds, et où il a été suffisamment ébahi pour que notre collaboration démarre là-dessus et dure un certain temps.
Alors, dans le vocabulaire que je mentionnais tout à l'heure, de la spécialité japonaise, tu signes l'entrée Keikai, je prononce bien ou...
Tout à fait, Keikai. C'est aussi simple que ça.
Et tu expliques le sens des deux caractères qui forment ce terme, lié, relié, noué d'un côté, milieu, monde, cercle de l'autre. Alors, comment faut-il comprendre cet assemblage de deux caractères?
C'est vraiment paradoxal pour nous. Et puis notre langue ne nous facilite pas les choses, parce que en général, chez nous, le vocabulaire, et malgré toutes ses connotations, il est quand même franc et il désigne une chose et une seule, pas une chose et son contraire. Or là, c'est pratiquement le cas dans ce terme de Keikai, qui est à la fois séparé et relié, noué, puisque il y a le verbe noué dedans. C'est un espèce de paradoxe pour nous, mais qui exprime bien ce qu'est le Keikai en lui-même. Là, c'est une longue histoire que je développe ensuite.
Absolument. Et dans cette notice, tu cites précisément Ito Taiji, que tu viens de traduire. Alors, qui est-il, ce personnage? Parce qu'il a l'air d'être haut en couleur, quand même.
Ah oui, oui, non, c'est un sacré bonhomme. C'est un grand historien de l'histoire de l'architecture du Japon, un historien moderne, parce qu'il y a eu avant lui deux autres historiens qui importent beaucoup, qui ont créé l'histoire de l'architecture au Japon, mais pas tout à fait selon les critères scientifiques et les critères occidentaux. C'est-à-dire que les durées, les classifications, les ruptures n'existent pas trop. Ils font des liens alors tout à fait scabreux, quelquefois, du type du temple de Issei, qui est donc reconstruit, comme on sait, tous les 20 ans, et qui est présenté, avec les photos du temple actuel, comme le bâtiment le plus ancien du Japon. Ce qui pose un petit peu problème. Mais revenons à Ito Teiji, donc il naît en 25, si je ne dis pas de bêtises.
22.
J'ai déjà un peu oublié.
Et il meurt en 70.
Voilà. Il a beaucoup de mésaventures quand il est jeune, hein, puisqu'il est, il a tuberculose, il est malade longtemps, donc il prend du retard dans ses études. Et du coup, il s'interroge beaucoup sur sa place, sur la place du Japon, qui est quand même très vacillante, changeante à ce moment-là, à cause des guerres. Il se demande ce qu'il va faire, il se demande où est-ce qu'il va trouver sa place. Et puis, comme il a pris beaucoup de retard par rapport à ses propres collègues dans les études et dans la recherche, toutes les questions vraiment importantes pour des Japonais, c'est-à-dire les temples, les monuments, les grands monuments, il ne va pas pouvoir prendre sa place là-dedans. Donc il a choisi quelque chose de plus modeste. Il dit, je vais m'intéresser à l'architecture paysanne, à l'architecture populaire et l'architecture médiévale en particulier. Donc médiévale pour eux, ça veut dire l'époque de Edo, de 1700 à 1848. Et il va devenir le spécialiste de ça, une question qui n'était absolument pas traitée autrefois. Et il va là-dedans réussir merveilleusement. Alors, on peut détailler tout en particulier sa thèse et ses premiers ouvrages vont être remarqués, primés. Il va avoir beaucoup d'importance. Il va à la fois travailler avec le groupe des architectes contemporains, Isozaki Arata, Tange Kenzo et compagnie. Il va travailler de manière très étroite avec eux. Sa thèse étant remarquée, appréciée, publiée, primée et tout, il va être invité aux États-Unis pour aller enseigner précisément sur les concepts et la pensée de l'architecture médiévale traditionnelle du Japon. Et il va aller donner des cours là-bas et des conférences, tant et si bien qu'en revenant au Japon, il va publier ça dans un petit bouquin qui est toujours édité, d'ailleurs aujourd'hui, qui est remarquable. Mais ce n'est pas celui-là que j'ai choisi de traduire. ce serait très intéressant. Alors, ce serait un gros boulot aussi.
Avant d'en arriver à ce livre, il publie en 1968 « L'espace urbain au Japon », qui est préfacé par Tange. Et ce livre-là, dis-tu dans ton introduction, va servir un peu de point de départ de la célèbre exposition « Ma » en 1978. Alors, qu'est-ce que c'est que cette célèbre exposition Ma ?
Tu l'as connue certainement autant que moi et tu l'as visitée à l'époque. Je ne sais pas comment tu as réagi. Moi, je me souviens très très bien qu'on était totalement subjugués par la beauté du design japonais. On pourrait dire, eux-mêmes emploient le terme de design pour ce que nous on appelle l'architecture, le dessin d'architecture. Et puis par les phrases de Roland Barthes, qui étaient toujours aussi énigmatiques, toujours aussi merveilleuses et bien écrites, mais qui, toute cette exposition, et ça c'est la critique qu'on peut en faire maintenant, et je ne m'en prive pas, mais je ne suis pas le seul, Augustin Berk le fait également, un spécialiste de l'art japonais, Michael Dugan aussi, disent très bien les choses, c'était une exposition qui était plutôt faite pour nous bluffer. C'est-à-dire, oui, l'art japonais est tout à fait l'égal de l'art occidental, il est de grande qualité, mais de toute façon, vous n'y comprendrez jamais rien. Admirez, mais vous ne pourrez jamais rentrer dedans. Alors toujours, c'est un peu le langage aussi qu'on peut critiquer des architectes, de mes collègues architectes, qui est toujours cette espèce de langage inspiré, très métaphorique, très éthéré, mais jamais explicatif et jamais démonstratif. Quoi. C'est le langage de l'artiste.
Un peu ésotérique, tu veux dire,
oui,
pour le grand public.
Oui, tout à fait, exactement.
Alors, moi j'avais découvert le mot « ma » dans le texte d'Edouard Hall, sur la dimension cachée, parce qu'il l'évoquait déjà, toi.
Ah, j'ai oublié qu'il en parlait.
Ouais, c'est assez étonnant. Oui. Alors, dans ton fameux vocabulaire de la spatialité japonaise, c'est Augustin Berk qui fait l'article Ma, et il écrit « Soleil ou lune se montrant dans l'entrebâillement d'une porte ».
Ça, ce sont les caractères qui permettent d'écrire.
C'est assez beau. En même
oui,
temps,
oui, non, c'est, il est très beau, ce caractère.
Et donc, c'est aussi, ça a à voir avec le kekai, dont on va parler maintenant, quand même.
Tout à fait. Alors, bon, moi, je vitupère contre ce qu'est devenu ce terme de ma et son usage après cette exposition, oui. À savoir que cette exposition, donc en 78, au Salon d'automne et au Musée des Arts Décoratifs, a déjà à l'époque un succès vraiment retentissant dans la vie parisienne. Et puis après Paris, l'exposition va circuler dans le monde entier, dans toutes les grandes capitales, et va laisser derrière elle une traînée, une réputation. Et tout le monde qui ne connaissait avant cela à peu près rien au Japon, sinon il y a eu la période du japonisme pour les estampes, mais en architecture et en matière d'espace et de spatialité, on n'y connaissait franchement rien du tout. Et donc maintenant, tout le monde va penser avoir compris.
Bah, exactement.
Puisque, hein, y a le mot magique, ah, oh, mais voilà du mât. Bon, c'est évidemment assez pénible, assez odieux. Bon, ça introduisait à l'idée qu'il y a des concepts dans d'autres cultures qui rendent compte de l'espace, de leur espace, et qui ne sont pas les nôtres, et dans lesquels on ne rentre pas comme ça. C'est ça qu'il faut souligner. Alors, on a tout prêté aux mains. Je ne m'amuserai pas à perdre mon temps à essayer de récolter tout ce qui a pu être écrit et dit. Michael Duggan, lui, s'est tapé le travail. Ça n'a pas un énorme intérêt. Bon, cela dit, ce mât, donc le caractère, c'est effectivement deux vantaux d'une porte, on pourrait dire plutôt une porte à la chinoise, d'ailleurs, ça ressemble plutôt à ça, avec un rayon de soleil qui passe entre les deux vantaux. Donc on voit bien l'idée d'un interstice, hein, d'un écartement entre deux objets qui sont, alors à savoir que dans un temple japonais qui reprend quand même l'architecture chinoise à ce moment-là, du moins pour les temples, ces deux portes vont être pivotantes et être fixées sur deux poteaux écartés l'un de l'autre d'une certaine largeur, précisément. En japonais, on dit de un ken, qui est l'unité un peu fondamentale dans l'architecture, qui est la longueur du tatami, hein, et qui va être donc à peu près la hauteur humaine. Hein, un petit peu large pour un japonais, 1m80 et quelques. On va donc bien parler d'écartement d'interstice. Mais c'est là où je proteste un peu, c'est-à-dire que enfin, je ne me gêne pas pour le dire, et Augustin Berg le dit aussi, il ne faut pas oublier que c'est au départ un concept très pragmatique. C'est une mesure. D'ailleurs, on mesure dans les rues de Kyoto, dans les quartiers traditionnels, on mesure la façade d'une maison, à un ken, deux ken, trois ken, c'est-à-dire le nombre d'écartements de poteaux, ou un ken et demi pour les maisons simples et populaires. Voilà, c'est quelque chose de très pratique. Et par contre, le mât, on va en avoir fait, alors, en le faisant circuler partout, quelque chose de métaphorique, de métaphore, de métaphore, de métaphore, qui, quelquefois, ne veut plus rien dire. Alors, cela dit, dans notre langue aussi, l'espace d'un instant est une expression qui articule cette question de l'écart, la pause, cette petite partie de vide entre deux repères, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et ça, c'est effectivement un objet abstrait qui existe chez eux, qui existe chez nous, où on pourrait monter en généralité, en universalité, plutôt que d'en faire un objet qui serait, soi-disant, totalement incompréhensible dans une culture.
Et en même temps, en t'écoutant, je pense à ce vocabulaire des intradivisibles, qui a été publié sous la direction de Barbara Cassin, sur le vocabulaire occidental, enfin des langues occidentales, et c'est vrai qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire, parce que c'est trahir dans ce cas-là. Donc il faut plutôt les garder dans leur propre langue, et ça nous alerte que là, il s'agit d'un mot qui a une telle richesse que l'on ne peut pas simplement se contenter de le traduire par un terme à nous. Bon, voilà, donc c'est une sorte de mise en garde. Donc on peut parler du mât comme ça, mais on va en venir à Keika Inobi, qui est publié en 1966 et que tu traduis
mais
aujourd'hui.
Précisément, grande difficulté, mais précisément
ah oui.
Impossibilité à traduire le terme de Keika lui-même. Donc, pendant longtemps, mon projet, mon manuscrit, tout ça s'appelait Kekai, un point c'est tout. C'était devenu tellement une évidence pour moi. Enfin, je voyais de quoi il relevait, mais pas question de publier un ouvrage en français en l'appelant Kekai. Personne n'aurait su de quoi il pouvait s'agir. Et il faut effectivement un ouvrage entier pour commencer à cerner un petit peu, sans sublimer de trop, pour essayer d'expliquer un petit peu comment justement un architecte un historien de l'architecture japonais peut l'entendre et peut le décrire, puisque ça va d'objets qui sont extrêmement rudimentaires, pragmatiques, qui est une petite barrière autour de la caisse d'un magasin. Hein, ça a été pendant un certain temps uniquement ça, jusqu'à des choses tout à fait abstraites et... Je ne suis pas philosophe, moi, hein, mais de l'ordre du philosophique, des significations religieuses, puisque c'est sa provenance, hein, son import sans doute depuis la Chine, qui est l'ensemble des interdits autour du moine, autour du monastère, pour protéger un espace propre aux moines, pour protéger leur ascèse, pour qu'il n'y ait pas de tentation. Quoi.
Oui, donc on parle bien du bouddhisme, là.
Hein. Tout à fait. Oui, ce qui est le paradoxe,
donc,
d'ailleurs, c'est qu'il y
a des moines qui demeurent célibataires.
Pas tous, non, c'est pas obligatoire. Mais quand même, bon, c'est quand même un peu ça l'idée. Alors, chose étonnante, c'est que c'est le père abbé, hein, on pourrait l'appeler comme ça, qui institue ce kekkai et qui institue les règles à observer qui vont se complexifier, se préciser, des interdits alimentaires, des interdits vestimentaires, etc. Enfin, bon, il y a sept interdits qui s'ajoutent les uns aux autres. Mais si on va sur le monastère du Mont Hiei, juste au nord-est de Kyoto, il n'y a nulle barrière. Bon, évidemment, il faut monter. Hein, il faut monter à ce sommet pour atteindre le... Mais il n'y a nulle barrière, nul rempart, nulle clôture comme il y avait autour de nos monastères cisterciens, bien qu'ils soient déjà à l'écart de la ville, dans le désert bourguignon ou ailleurs. Et en fait, il va y avoir simplement sur le chemin, quelquefois, apparaît une borne gravée et qui va dire, ben, à partir d'ici, s'il vous plaît, ne franchissez pas avec tel ou tel objet ou telle nourriture, pas de l'ail, pas de saké. Et puis, si vous êtes une femme, ben, s'il vous plaît, ne franchissez pas du tout. Voilà. Et c'est déjà une des premières caractéristiques de ce kekkai, c'est que il demande de prendre conscience. Voilà, ici a été instaurée une limite de par une volonté. Veuillez accéder à cette volonté. Évidemment, vous pouvez toujours franchir matériellement. Il vous suffit soit de casser la petite barrière, soit d'aller au-delà. Non, vous allez vous construire mentalement cette limite et lui donner une importance et faire qu'il y a un ici et il y a un là. Il y a deux espaces différents. C'est en ce en quoi je me suis permis de dire et de penser que sur ce seuil, on avait en quelque sorte un atome de spatialité. C'est-à-dire qu'on différencie deux espaces et là, on construit quelque chose.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu viens d'anticiper ma question, donc, qui est très bien. C'est, je citais là l'auteur Ito, la porte, alors on dit
mon
oui. Le muret, haï, les fenêtres, mado, aussi bien que les cloisons et portes coulissantes, ou les volets de planches, itado, tous doivent être perçus comme des kekkai si l'on veut saisir leur caractère profond. C'est ce qui caractérise les dispositifs de séparation spatiale au Japon. Est-ce que tu peux revenir sur ces, quelques éléments-là ?
Je trouve que là, il le formule très très bien. Quoi. Il dit d'ailleurs, tous ces éléments qui constituent la maison matérielle, il dit il faut les voir en tant que kekkai, voir en tant que...
D'accord.
C'est un concept aussi qui existe pour les paysages, tout ça, qui est le mitate, qui serait un peu la... Nous, on traduit souvent par citation, c'est impropre, ça ne suffit pas. C'est voir en tant que... Augustin Berg utilise beaucoup cette notion-là, c'est-à-dire que de quoi imprègne-t-on et le mot et la chose, quelle importance on lui donne, quelle signification on lui donne. C'est-à-dire qu'il... Prenons un shoji, donc cette paroi coulissante avec juste du papier de riz sur des petits montants extrêmement légers. Bon, elle a une matérialité indéniable, elle va couper un petit peu le vent, elle va être secouée d'ailleurs par le vent, elle est légèrement translucide, elle va laisser passer un petit peu de lumière, elle va prendre les ombres des plantes extérieures, elle va garder un tout petit peu de chaleur à l'intérieur, il fait toujours aussi froid quand même. Il suffit soit que je la pousse, soit même que je donne un coup de pied dedans quand il y a des attaques guerrières. Je veux dire, elle ne protège pas grand-chose. Elle ne protège qu'en tant que je veuille être un peu protégé et que j'accepte que les gens sont protégés, qu'il y a une intimité au-delà. Donc cette intimité est construite par une entente entre celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur, mais la matérialité ne va pas comme chez nous, comme un mur de blocos, hein, par exemple, ne va pas remplir cet office-là. La séparation ne va exister qu'en tant que nous voulons qu'elle existe, nous souhaitons qu'elle existe. Et elle va, si je prête attention à quand même la matérialité qu'on aura donnée, je vais construire des propriétés différentes du ici et de là, en fonction, malgré tout, de cet objet. Hein ? C'est-à-dire, je ne sais pas. Et puis de son emplacement dans une structure spatiale. C'est-à-dire, ce n'est pas la palissade qui va séparer l'ensemble domestique de la rue. Hein ? Ça se passe à l'intérieur même de la maison. Mais néanmoins, je suis ici et je peux percevoir, deviner, et je dois même le faire, entendre ce qui se passe de l'autre côté de ce sosie. Si quelqu'un passe, je dois savoir qu'il se passe quelque chose. C'est dans le grand monde de la montagne, là, de Kawabata, beaucoup de descriptions, d'attention sont portées là-dessus, sur les petits bruits à l'intérieur de la maison, entre le beau-père et sa bru. Ils habitent tous les deux la maison. Il y a une communication comme ça, non dite, très silencieuse. C'est absolument merveilleux.
Alors, Ito raconte dans son livre l'anecdote d'un architecte américain, vraisemblablement Frank Lloyd Wright, peut-être, on ne sait pas trop.
Hein. J'y ai cherché beaucoup, oui, j'aurais vraiment voulu que ça soit lui.
Et donc, il rentre dans un bain public, enfin, où il y a. Et là, il est étonné parce que, évidemment, on s'y baigne nu, et il y a des hommes et des femmes. Alors, il remonte voir le tenancier en disant, mais normalement, il y a une séparation. Et lui descend, et il dit, d'une certaine manière, bah, les hommes, mettez-vous par là, les femmes sont là, et il dit aux touristes, à l'étranger, voilà, c'est réglé, il y a un kékaï qui les sépare.
Il a mis une petite cordelette, une cordelette. Le rôle de la cordelette, qui est la Shiminawa, qui est en fait une corde sacrée, a pour les Japonais une puissance de séparation extrêmement importante. Et effectivement, il y a deux cultures. Il y a celle des Japonais, pour qui le corps, la nudité, n'a pas du tout la même valeur que nous. Il n'y a pas une morale, une pudeur. Enfin, il n'y a pas du tout la même pudeur. Hein, mais, et pour eux, dans un village, il y a absolument une auberge. Il est parfaitement normal que les bains se prennent comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de mal à y voir, alors que pour lui, l'Américain, très prude, protestant et compagnie, c'est impensable que les choses se passent comme ça. C'est-à-dire que, en fait, il va réclamer ça, à la fois pour imposer sa propre culture, mais aussi parce que pour lui, ça ne lui est pas possible. C'est dans... c'est quoi l'honorable partie de campagne, là, où, effectivement, de la même manière, il doit prendre son bain, il y a des jeunes femmes qui viennent pour l'assister et tout, mais il est rouge de honte, il ne peut pas supporter ça, quoi. Donc là, c'est absolument merveilleux. Il se rend compte, quand le tenancier met juste cette petite cordelette, que, effectivement, il comprend que l'espace japonais n'est pas du tout le même, qu'il peut être séparé avec presque rien, avec simplement la décision de séparer et la parole de
Alors, malheureusement, il faut qu'on s'arrête dans quelques instants. Il y a un chapitre, je veux quand même le mentionner, qui est absolument remarquable, c'est sur la fenêtre. Parce que moi qui ne connais pas du tout le Japon, je découvre par cet auteur japonais à quel point il y a une différence incroyable, pas seulement de taille, d'objet, mais de signification entre la fenêtre à l'occidental, on va l'appeler comme ça, et puis les différentes formes de fenêtres, d'orifices, enfin d'ouverture qu'il y a au Japon. Dernière remarque simplement avant malheureusement de nous arrêter. Le seuil, est-ce que c'est le bon terme ? Puisque tu laisses entendre quand même que kekai, ça sépare, mais ça réunit aussi.
J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup hésité sur le bon titre, qu'est-ce qui serait le mieux compris. Sauf que bon, le seuil a été mon objet de recherche, par ailleurs, depuis longtemps, et que c'est... à travers les comportements autour du seuil japonais, le fait qu'on retire ses chaussures, qu'on monte dans la maison, etc., qui a été un peu le point de départ de toutes ces recherches. La limite, c'est pour ça que ça se trouve dans le sous-titre de l'ouvrage, la limite est peut-être un terme plus neutre qui collerait bien à ce terme de kekai. Mais le seuil a une charge également... qui est plus compréhensible pour nous. C'est sous le solum, sous le seuil, la pierre de seuil que les Grecs enterraient leur propre père. Et donc, ils donnaient une importance à ce franchissement de l'entrée dans la maison, qui est un petit peu ce que veulent dire les Japonais. C'est très difficile de passer d'un univers culturel à l'autre, mais voilà, et de traduire.
Merci beaucoup, Philippe. À bientôt.
Merci à toi.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.